Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Salade de pommes de terre au maquereau fumé, coque à l'andouille de guéméné sur scorff, langoustine rôtie au beurre salé et au carigos, gratin de coquilles Saint-Jacques, palourde farcie, cochon en pain de sel cuit aux algues et bien sûr incontournable les classiques Queen Yaman et autres galettes, la cuisine bretonne est à l'honneur ce midi.
C'est pas difficile, il n'y a pas de secret dans la pâte à crêpes, il suffit tout simplement de mettre de bonnes choses pour qu'on fasse de bonnes crêpes. Alors, par exemple ici, pour une livre de farine, je mets une demi-livre de sucre, 6 œufs, du beurre fondu, une pincée de sel et du lait jusqu'à la consistance voulue de la pâte.
Les Bretons, ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons.
On y est, hein, mais ça n'est pas à l'occasion de la publication d'un nouvel album des Sœurs Goadec, trio de chanteuses bretonnes fameuses des années 70 que nous faisons cette émission, mais bien à l'occasion de la publication d'un livre qui se présente comme un food trip iodé, une somme de quelques kilos qui fait un tour gourmand de la région en 100 recettes, brossant le portrait d'hommes et de femmes dynamiques, productrices engagées, pêcheurs responsables, restaurateurs et chefs inventives, une somme de quelques kilos qu'il vaut mieux poser sur une table de cuisine ou éplucher, comme nous allons le faire en compagnie de son autrice, la journaliste Catherine Roig. Bonjour Catherine Roig.
Bonjour Caroline.
C'est toute votre enfance, hein, les Sœurs Goadec qu'on vient d'entendre.
C'est toute mon enfance. Je les ai connues car mes parents avaient un hôtel-restaurant au bord de la mer et parfois ils faisaient des soirées dansantes et les Sœurs Goadec venaient parfois chanter chez mes parents.
Carrément. Voilà. Parce que on vous a connue avec un livre précédent sur la Provence. Je ne sais pas si vous comptez faire toutes les régions de France, mais là, avec la Bretagne, vous replongez en enfance. C'est la région dans laquelle vous êtes née et c'est la région dans laquelle vous avez grandi.
Absolument.
À l'Armor-Plage.
Je suis née à l'Armor-Plage près de Lorient.
Dans le Morbihan.
Voilà, dans le Morbihan, et qui est la concurrente, Lorient étant la concurrente entre guillemets de Vannes, hein, la ville un peu moins charmante que Vannes, mais qui a une histoire lourde et passionnante. Et j'ai grandi là-bas, effectivement, d'abord dans le centre de Lorient, où mes parents avaient un restaurant, et ensuite au bord de la plage de Toulard, à l'Armor-Plage, avec en face de nous la citadelle de Port-Louis, de l'autre côté de la rade de Lorient.
Votre père était chef cuisinier d'origine catalane, c'est votre mère qui était bretonne, qui était restauratrice, elle aussi grande cuisinière. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres de recettes d'Henriette dans votre livre, et on suppose qu'Henriette, c'était votre maman.
C'était absolument ma maman et elle cuisinait aussi bien que mon père, c'est-à-dire que peut-être mieux encore car elle savait manier les recettes de chef du restaurant familial, mais en plus elle faisait une cuisine ménagère absolument extraordinaire mais complètement à l'instinct. Je n'ai jamais réussi à obtenir une recette d'elle et celles que j'ai mises dans le livre sont un petit peu reconstituées, notamment son gratin de coquille Saint-Jacques qui est merveilleux. J'ai dû le faire 3 ou 4 fois avant d'arriver au résultat qui ressemblait vraiment au sien.
Alors vous avez grandi, Catherine Roig, dans le Morbihan, oui. Mais la Bretagne est une région assez vaste. On a coutume de parler du nord de la Bretagne et du sud de la Bretagne. Ils sont même concurrents, même en termes de climat. Ils ne s'aiment pas les uns les autres.
Et pour cause.
Attention. Mais il y a aussi la terre et la mer. On dit l'argoate et l'armorphe. Est-ce que vous nous dresseriez quelques différences qui se reflètent dans l'alimentation entre la terre et la mer?
Tout à fait. Vous avez au sud, la côte est plutôt calme, elle est plutôt plate et sage, alors qu'au nord, c'est une côte très découpée, très rocheuse, plus froide. La mer est plus froide au nord, hein, quoi qu'en disent les nordistes de la Bretagne. Donc, effectivement, il y a beaucoup de différences. Et puis, vous savez, ne serait-ce que quand on parle de la Bretagne, de la cuisine bretonne, on parle souvent des crêpes et des galettes. Mais on les mange très différentes dans le Finistère, c'est-à-dire l'ouest de la Bretagne, on les mange crases, R-A-Z, ce qui veut dire croustillant, alors que dans l'est de la Bretagne, l'Ille-et-Vilaine, le nord, on les mange plutôt moelleuses. Voilà, donc c'est différent. Chez nous, on dit les crêpes. En Ille-et-Vilaine, on dit les galettes. Voilà. Après, au niveau des produits, effectivement, il faut bien faire la différence entre la terre et la mer, parce que on connaît tous les poissons, les fruits de mer bretons, hein, le crabe, l'araignée, le homard breton, qui est le meilleur du monde, ça tous les chefs du monde vous le diront. Mais on parle assez peu des produits de la terre, qui sont toutefois très très intéressants. Donc évidemment, le beurre en Bretagne, c'est quelque chose, hein, c'est même la pierre fondatrice de la cuisine. Mais il faut aussi parler des farines et du gouel, notamment, qui est un yaourt breton qu'on est en train de redécouvrir depuis quelques années.
On va en parler, évidemment, nous allons en parler. Mais peut-être un mot également sur l'histoire de la cuisine bretonne. Ça n'est pas une terre historiquement gastronomique. C'est pas une terre très riche, la Bretagne. On a coutume de penser que voilà, c'est une terre de marins, de paysans qui mangeaient bah, quoi, les produits de la pêche, des pommes de terre, des bouillies de sarrasin et d'avoine.
Alors, c'est une terre de pêche depuis 200 ans. Auparavant, ça ne l'était pas. La mer était dangereuse, les gros bateaux n'existaient pas. Enfin, les gros bateaux qui permettaient d'aller au large n'existaient pas. La pêche était dangereuse et les gens qui partaient pêcher au large, malheureusement, souvent se noyaient en mer. Et donc, les gens à terre ne mangeaient pas les poissons, les animaux qui étaient susceptibles d'avoir mangé leurs proches. Donc, il y avait une
certaine... Donc, c'est plutôt récent de manger les produits de la mer ?
Depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire le 19e siècle, où sont arrivés les gros bateaux. Et là, la pêche a été plus intensive et plus systématique. Avant, on mangeait beaucoup, comme vous dites, de bouillies d'avoine, bouillies de sarrasin. On dit même que Gargantua, qui aurait visité la Bretagne et à qui on aurait proposé... de la bouillie d'avoine était, ou de sarrasin, je ne sais plus, était furieux et qu'il aurait jeté des énormes rochers provoquant le chaos rocheux magnifique de la rivière d'Argent à Huelguat. Donc voilà, c'était vraiment une nourriture très... Et puis des légumes racines comme les pommes de terre, les choux, des légumes comme ça, et puis un petit morceau de viande les jours de fête. Voilà, ça c'était vraiment... La Bretagne est une terre paysanne à l'origine. Il n'y a pas de gastronomie bretonne depuis 500 ans comme certains endroits.
Et pourtant, quand on ouvre votre gros ouvrage, Catherine Roig, on découvre une terre aujourd'hui, en tout cas gastronomique, qui va d'ailleurs bat en brèche cette idée reçue de la Bretagne comme terre de l'agriculture intensive uniquement. Vous êtes allé à la rencontre de producteurs engagés, de pêcheurs responsables, de restauratrices inventives. Ils se mettent à plusieurs, ils reprennent des terres et ils font, on va le voir parce qu'on va avoir un certain nombre de coup de fil aujourd'hui avec nous pour voir ce que font ces productrices et ces producteurs. Vous aviez à cœur de montrer qu'effectivement la Bretagne est aussi une terre où la gastronomie maintenant a ses terres.
Ah oui, vraiment, parce qu'il y a une nouvelle génération d'agriculteurs, et qui dit nouvelle génération d'agriculteurs, c'est-à-dire des gens qui reviennent aux cultures diversifiées, hein, qui vont faire la complémentarité entre, par exemple, élevage et pommage. Et donc il y a plein de nouveaux chefs aussi qui redécouvrent les produits. Vous savez, avant, quand on disait gastronomie, on pensait homard, caviar, truffe, etc. Mais il y a beaucoup depuis 20 ans, 30 ans, les jeunes chefs, ils se rendent compte que le sarrasin, ça peut être aussi merveilleux.
Et on se trouve, la gastronomie, c'est l'art de bien manger.
Voilà,
et ça doit être donné à tout le monde.
Et donc, il y a vraiment une nouvelle génération de chefs, et en Bretagne, et je pense que on va en avoir au téléphone, mais à Rennes, à Brest, à Lorient, il y a plein de jeunes chefs et chefs qui font des choses merveilleuses à partir des produits traditionnels bretons.
Alors, vous avez fait un voyage, Catherine Roig, en 5 étapes. Nous avons le Finistère, Molène, le Conquet, Plougonvelin, Neuvé-Riec sur Belon. Nous allons après dans le Morbihan, avec l'île de Groix, Lorient, Guidel, Pontivy. Et puis, les terres, que vous appelez le cœur de la Bretagne, qu'on met pas assez en avant. Bubry, Gestel, Mélès, Saint-Revoil, le Vieux-Marché, Guéméné-sur-Scorff. Et enfin, le littoral septentrional, avec Trégastel, Saint-Briac, Saint-Lunaire, Saint-Malo, Saint-Coulon, tous les saints, Dinard, Le Vivier-sur-Mer et Lancieux. Et puis on termine par Rennes, avec des chefs dans le vent et des artisans de cœur. Rennes, pour vous, c'est quand même là que tout se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à Rennes. C'est là que le cœur bat le plus fort.
Ben, disons que c'est une grosse ville, c'est une ville étudiante, c'est une ville jeune, et surtout c'est une ville dans laquelle il y a un des plus beaux marchés de France, si ce n'est le plus beau, depuis 400 ans. Le marché des Lys, L-I-C-E-S, fête ses 400 ans cette année, et tous les samedis matins, depuis 400 ans, se réunissent là-bas 300 producteurs, donc c'est extraordinaire. Moi, j'ai fait mes études à Rennes dans les années 80 et c'est vrai que la restauration à l'époque n'était pas, elle était très ampoulée ou alors très basique. C'était crêperie ou restaurant, voilà. Aujourd'hui, vous avez des jeunes chefs qui développent des restaurants, mais géniaux, des bars à vin, des, avec coquillages. Il y en a un qui est génial, qui s'appelle Pesca, qui travaille uniquement les poissons, d'autres. Puis ils se réunissent entre eux. C'est-à-dire quand un éleveur va tuer un bœuf, ils vont se le découper. Quand un de leurs copains pêcheurs va pêcher un thon énorme, là vous êtes sûr que pendant 3 jours, si vous faites tous les restaurants de Rennes ou les restaurants de ces chefs-là, vous allez manger un morceau différent du thon. Donc c'est une démarche vertueuse. Certains développent leur potager, comme les chefs de Bercail. C'est vraiment, il se passe plein de choses sur la scène rennaise. Et puis il y a aussi un journaliste qui s'appelle Olivier Marie qui agite beaucoup cette scène gastronomique rennaise en organisant le marché à manger tous les premiers dimanches du mois et qui met en valeur tous ces jeunes chefs, etc. Il se passe vraiment des choses formidables à Rennes.
Alors on a commencé par la fin, remontons, ouais. Et remontons d'ailleurs aux sources puisque nous avons commencé avec vous par votre ville d'origine, Lorient. Bah allez, on part de Lorient. De Lorient à Groix en passant par Pontivy où se trouve le petit hôtel du Grand Large de Hervé et Catherine Bourdon.
De Pontivy,
qui est donc dans la baie de
Quiberon,
bien sûr, près de la Côte Sauvage.
Merveilleux endroit.
Hervé et Catherine Bourdon, qu'on connaît bien, nous sommes allés au petit hôtel du Grand Large pour les bonnes choses et dans votre ouvrage. Et puis vous êtes retourné à la Criée de Lorient, là où vous étiez petite ou là où vous alliez. Et vous avez eu un coup de cœur à Groix, à l'île de Groix, pour le Bistrot Bao.
Bistrot Bao, d'ailleurs le chef Maxime Kiltu, qui s'est associé pour ce restaurant avec Patrick Sego, qui a créé créé les fumaisons de Groix. Ils ont fait un bistrot de poissons, etc., qui est vraiment génial. Et pour la petite histoire, Maxime Kiltu est un des disciples, des élèves d'Hervé Bourdon.
Et voilà. Les choses se retrouvent dans le coin, mais pas seulement dans le coin, parce que nous avons avec nous au téléphone un chef de Lorient, donc, du restaurant Source, au pluriel, le chef Nicolas Le Tyran, qui lui est passé par des grandes maisons parisiennes, Alain Ducasse, Yannick Aleno, pour ne pas les nommer. Bonjour Nicolas Le Tyran.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Source au pluriel.
Bonjour, Catherine.
Parce que vous sourcez les producteurs locaux, c'est ça l'idée de Source?
Oui, tout à fait. On source énormément. On va en direct avec nos producteurs sur sur 30 km à la ronde de Lorient. Donc on source énormément, oui, tout à fait.
Ce qu'on trouve facilement pour votre cuisine à Lorient, c'est quoi? Quel type de produit?
Bon, évidemment, on va pas parler du poisson, des crustacés et des fruits de mer, puisque ça, c'est...
C'est la base pour vous.
C'est la base de notre région et de notre localité. Ensuite, on arrive à trouver des farines assez exceptionnelles de sarrasin à 10 km d'ici. J'ai un producteur qui s'appelle Pascal et qui nous fournit tous les mardis de la farine de sarrasin. On arrive à avoir des fleurs de courgettes en saison magnifiques qui fait. Et comme vous disiez, j'ai fait quelques beaux établissements et honnêtement, les fleurs de courgettes comme ça, je crois que j'en ai pas vu souvent. Donc non, on a des producteurs assez formidables autour de Lorient.
Catherine.
D'ailleurs, je dois préciser que Nicolas, quand nous sommes allés le voir pour faire les photos du livre, a eu la gentillesse de me présenter des producteurs exceptionnels, comme Yannick Lomenec qui produit des poulets incroyables à Gestel, pas très loin de Lorient, et comme Jean-Marie Bourgès et Linda Sèvres de la ferme de Kerbastar qui font des laitages et du beurre d'exception également. Donc merci Nicolas.
Il y a une seule viande, si je ne m'abuse, à votre carte. Et d'ailleurs, il n'y a pas de carte. Vous ne faites que des menus dans le restaurant Source, Nicolas Le Tyran.
Oui, j'ai mis en place ça dès notre arrivée pour justement pouvoir composer les menus par rapport aux saisons, par rapport à la proposition de mes producteurs.
Alors, ça vous a réussi, puisque vous...
Comment ?
Ça vous a réussi, puisque vous dites dès que vous êtes arrivé, si je ne me trompe pas, en 2020, hein, c'est tout récent, et dès 2022, vous avez obtenu une étoile. Vous avez offert un certain nombre de recettes de votre cru dans le livre de Catherine Rouague, Nicolas Letirant, la recette de marinière de coquillage à la fleur de sureau, les maquereaux grillés, eau de caillé, huile de persil, les langoustines juste saisies, consommées en glace et en gelée, mousse au lait ribot et tartelette au cidre.
Un plat incroyable.
Je dois dire que c'est sans doute délicieux à manger, c'est peut-être moins facile à faire. Il y a des recettes beaucoup plus simples à faire.
Tout à fait. Voilà, pas celle-là est sans doute la plus compliquée du livre.
La plus difficile.
Tout à fait, oui, c'est pas possible. En tout cas, c'est vrai que c'est une de mes recettes les plus compliquées. Parce que pour la fin des bonnes raisons, il y a beaucoup d'éléments. La langoustine est extrêmement concentrée. On va chercher tous ces arômes des pattes, de la tête jusqu'à la queue. Et j'essaye dans une démarche écologique, évidemment, d'utiliser au maximum le produit. Et donc, cette recette-là est vraiment, je pense, une de mes recettes les plus marquées et les plus engagées.
Et c'est une recette qui a beaucoup de sens pour toi, Nicolas, et pour moi, puisque la langoustine, on l'appelle la demoiselle de l'Orient, puisque l'Orient est le plus grand port langoustinier de France. Voilà.
Exactement.
Merci, Nicolas Letirant.
Bien sûr, cette andouille, il est allé en Bretagne. Alors je la connais, moi, la Bretagne. Un jour de flotte, un jour de vent.
Ça dépend où.
Ça dépend où. En effet, un jour de flotte. Nous continuons ce voyage avec vous, Catherine Rouague, et nous remontons dans le Finistère, à Molène, Le Conquet, Plougonvelin. Justement, Plougonvelin. Vous avez envie de mettre en avant une jeune chef, c'est d'ailleurs elle qui ouvre votre ouvrage, une jeune chef qui a obtenu une étoile, elle aussi, au Michelin en 2019, à seulement 29 ans. C'est même la première chef étoilée du Finistère. Elle a fait ses classes auprès de chefs étoilés, à nouveau Niani Kaléo, au Meurice, Christian Le Square, au pavillon Le Doyen, avant de passer chez Jean-Luc Lourd, meilleur ouvrier de France, au Marinka, en Corse. Et elle a repris l'auberge familiale avec son frère, l'hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu. Un mot sur Nolwenn Corr, avant de lui donner la parole, Catherine Roy.
Alors Nolwenn, c'est une tornade rousse, une jeune femme magnifique, d'une énergie et d'une créativité sans bornes, et elle exerce son travail d'une manière très humaine, très joyeuse, dans un endroit qui a une force tellurique incroyable. Parce que la Pointe Saint-Mathieu, c'est une ancienne abbaye en ruine, avec un phare blanc et rouge au milieu. C'est vraiment le bout du monde et c'est un endroit que je conseille à tous.
Bonjour Nolwenn Corr.
Bonjour.
Bonjour Nolwenn.
Vos oreilles ont dû siffler en entendant cet éloge fait par Catherine Rouague. Décrivez-nous la pointe bretonne, puisque le Finistère, c'est ce qu'on appelle la pointe bretonne. Quel goût a la pointe bretonne ?
Alors le goût de la pointe bretonne, le goût de la pointe bretonne, c'est bien évidemment une prédominance à l'iode, mais pas que, parce que le Finistère, c'est la représentation un peu de toute la Bretagne. On a les pieds sur terre et la tête dans la mer, en fait, donc avec un côté très terrien et en même temps toujours le palais prêt à naviguer sur les flots qui nous entourent.
Comment ça se traduit dans votre cuisine à vous ?
Alors dans ma cuisine, elle est très très simple. C'est une balade finistérienne. On va de la terre à la mer. On va rechercher le meilleur de ce qu'on a localement. On a fait une petite partie d'ailleurs avec Catherine. On a eu le plaisir d'aller voir sur les petites îles en face, notamment à Kéménès, les agneaux. Chez nos voisins Jean-Marc et Yvon, on a été voir leurs légumes. Et c'est ça en fait ma cuisine, c'est la Bretagne, c'est de bons légumes, des bons poissons et beaucoup de teintes d'iode.
Kéménès, coup de cœur, Catherine Rouague, pour vous.
Coup de cœur absolu, encore une fois, grâce à Nolwenn, qui nous y a emmenés avec ses parents. Et j'ai le souvenir d'une journée extraordinaire parce qu'on a rencontré un jeune couple, Amélie et Étienne, qui cultivent des légumes, des pommes de terre, des oignons, de l'ail, sur un confetti posé sur la mer. Ils sont seuls sur cette île avec leur brebis et maintenant leur bébé, puisqu'ils ont eu un bébé entre-temps. Et c'est, je ne vais pas vous dire, c'est d'une magie absolue et je ne remercie remercierai jamais assez Nolwenn de nous avoir présenté ces producteurs d'une exigence et d'une pureté. C'était magnifique.
Alors Nolwenn Kaur, dans le livre sur la Bretagne, vous proposez une recette, parce qu'il y a quand même 100 recettes, hein, donc à chaque fois, donnons les recettes. Vous proposez une recette de salade de pommes de terre au maquereau fumé maison, des huîtres gratinées au cidre et au salicorne. La salicorne, c'est délicieux. La salicorne, c'est une algue. C'est comme la salade de la mer. Un homard aux algues cuit sur le galet, une cocotte d'agneau de la fameuse île de Kémenes, des couteaux escristes marines, des palourdes farcies au beurre d'ail de votre grand-père et un cochon en pain de sel cuit aux algues. Mais, j'ai ouï dire que vos plats emblématiques, qui ressemblent à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'était un mélange de langoustine et d'artichaut ou un crémeux de chou-fleur au sarrasin. Est-ce que vous nous parleriez un tout petit peu de ce crémeux de chou-fleur au sarrasin dans le Nolwenn Kaur?
Ah, alors oui, actuellement on a un petit crémeux de chou-fleur qui est posé avec, en fait c'est du sarrasin qu'on fait bien torréfier, on le fait torréfier en cheminée et puis on en fait une mousse assez aérienne et on va contrebalancer avec des coquillages. On fait un petit peu comme une crème brûlée. Voilà, on fait une crème prise de coquillages avec ce chou-fleur et cette mousse de sarrasin dessus.
Oh, le rêve. Oh, j'en rêve, Nolwenn.
Le sarrasin, c'est important d'en parler aussi, Catherine Roig, parce que il est un producteur qui est d'ailleurs pas n'importe quel producteur, c'est le fondateur des Braise Café, Bertrand Larcher, à Saint-Malo et à Saint-Coulon, qui reprend le travail du sarrasin, le sarrasin ayant disparu et de la terre bretonne, et il le retravaille, il le remet au goût du jour.
À vrai dire, il n'avait pas disparu, mais vous parliez tout à l'heure de culture intensive, donc effectivement, les cultures de sarrasin traditionnelles s'étaient réduites. Et Bertrand Larcher est un grand monsieur qui fait beaucoup pour les produits bretons et qui encourage les agriculteurs en Bretagne à planter du sarrasin, parce que c'est une plante vertueuse non seulement pour notre santé, c'est délicieux et c'est très vertueux pour la terre, c'est une plante qui n'attrape pas de maladies, de parasites, d'insectes, donc qui ne nécessite pas de produits trop chimiques pour pousser. Et ce monsieur en plante lui-même à la ferme de Saint-Coulon, et effectivement, il encourage, parce que vous savez, vous trouvez du sarrasin partout dans le monde. Le sarrasin breton, il est particulièrement qualitatif, donc il se plaît sur cette terre, sur ces terres salées, il se plaît vraiment beaucoup. Et donc, je vous encourage à acheter du sarrasin, de la farine de sarrasin et du sarrasin breton, ou en tout cas français.
Oui, c'est ça, c'est qu'il n'avait pas disparu. Le bon sarrasin, voilà, disons, était en voie de disparition.
Tout ce que fait Bertrand Larcher, c'est bio, etc. Donc c'est vraiment du sarrasin de qualité.
Merci Nolwenn Kaur. Alors on passe dans les terres maintenant. Nous allons du côté du Morbihan, à l'ouest du Morbihan, à Bubry. Dans la ferme de Kerbastard, tenue par Linda Save et Jean-Marie Bourgès, il paraît que c'est là qu'on fabrique le meilleur beurre salé de Bretagne. Un mot d'abord pour vous, Catherine Roig, pourquoi le beurre salé est-il une spécialité bretonne ?
Eh bien parce que autrefois le sel coûtait très cher et le sel servait de conservateur pour tout en fait. Donc il y avait un impôt sur le sel partout en France qui s'appelait la gabelle. Et la Bretagne, pour devenir française, avait obtenu quelques privilèges et celui de ne pas payer la gabelle en faisait partie. Donc les Bretons qui avaient des marais salants et donc qui pouvaient en plus ne pas payer la gabelle ont continué à saler leur beurre pour le conserver et puis aussi par tradition, ce que les autres régions n'ont pas pu faire. Voilà.
Et c'est ce qui explique que Linda Save et Jean-Marie Bourgès aujourd'hui perpétuent cette tradition avec un beurre salé qui est parfaitement réputé. Pourquoi votre beurre salé est-il si bon, Linda Save ? Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour Linda.
Comment expliquez-vous qu'il soit si bon, votre beurre salé ?
Ah ah. Bon, y a plusieurs raisons, mais déjà il y a la race des vaches qu'on élève. Donc on élève... principalement, enfin, c'est des races bretonnes et anciennes, et on tend à avoir surtout des froments du Léon. Donc, les froments du Léon, c'est une race de vache qui a naturellement, en fait, elle fixe le bêta-carotène de l'herbe. Donc, en fait, elle produit un lait vraiment de grande qualité et qui a une forte teneur en matière grasse et voilà, qui est plein de vitamines, d'oligo-éléments, enfin de que des bonnes qualités.
Et vous leur donnez de l'herbe et du foin. Donc ça donne
voilà. Et en fait, c'est après critère très important, c'est que nos vaches, elles ne mangent aucun aliment fermenté. Donc elles sont nourries à la belle saison, elles mangent uniquement de l'herbe. Et en hiver, elles ont du foin et des céréales, mais jamais d'ensilage, pas d'ensilage d'herbe, pas d'ensilage de maïs. Enfin voilà, aucun aliment fermenté.
Linda Sève de la ferme de Kerbastard, la ferme de Kerbastard qui produit donc du beurre salé, mais pas seulement. On voit notamment dans le livre sur la Bretagne de Catherine Roy que vous produisez beaucoup d'autres bonnes choses. Et j'invite les auditrices et les auditeurs à aller voir de incroyable. Plus près cette ferme. Merci beaucoup, Linda Sève. On va continuer ce petit voyage, puisque l'heure tourne quand même, et que nous avons un voyage à faire du côté du Vieux Marché. On reste dans les terres, on est en Côte d'Armor. Le Vieux Marché, c'est là que se trouve la ferme du Rhin, comment dit-on, Catherine ?
Je crois qu'on dit du Rhin.
La ferme du Rhin, et c'est Élise Laudrenne qui est avec nous de la ferme du Rhin. Bonjour à vous, Élise Laudrenne.
Bonjour.
Bonjour Élise.
Vous élevez une douzaine de vaches bretonnes, vous aussi, de vaches pinoires, avec votre associé Yann Clausel. Et vous avez la particularité de faire ce drôle de yaourt à la texture de yaourt bulgare, et qui est pour certains entre la faisselle et le fromage blanc, pour d'autres plutôt avec une note de lait ribot. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Le fameux gouel dont parlait Catherine Roig au début de cette émission. Qu'est-ce que le gouel déjà ?
Alors en fait, le gouel, c'est plutôt un lait fermenté traditionnel qui est fait à la ferme. Et donc fabriqué à partir du lait de vache de race bretonne. Donc ça peut être la bretonne pinoire qu'on a nous sur notre ferme, mais ça peut être aussi la froment du Léon et peut-être l'armoricaine ou la nantaise bientôt. Et donc on fait du gouel à partir de ce lait-là et avec un ferment naturel qu'on se transmet depuis des générations et de producteur en producteur. Donc ça fait effectivement une texture un petit peu de yaourt bulgare, on va dire, donc quelque chose de très très onctueux. Et le goût, par contre, est vraiment est assez unique, donc c'est compliqué à décrire. Oui. Et ça donne en bouche quelque chose de très frais et acidulé.
Avec quoi vous le mangez ?
Alors moi, je le mange vraiment comme un yaourt, donc plutôt en dessert avec juste un petit peu de sucre ou une petite compote, un peu de confiture. Mais il y a aussi, traditionnellement, ça se mangeait beaucoup sur les pommes de terre ou sur les galettes de sarrasin. Et puis aujourd'hui, il y a pas mal de restaurateurs aussi qui travaillent ce gouel-là pour aller avec faire des petites sauces avec de la viande ou avec du poisson, voilà, ou même dans des desserts.
On peut le manger aux herbes aussi, Catherine Roig. Hein,
oui, bien sûr, herbes, bien sûr, avec pour tremper les petites tranches, des petites feuilles d'artichaut bien cuits, là, c'est très très bon.
Élise Laudrenne, vous faites pas seulement du gros lait, enfin, ou du gouel, vous faites du lait fermenté, vous faites aussi du fromage blanc, de la crème des fromages et un fromage signature, le Rhin, qu'on découvrira dans le livre de Catherine Roig. Merci beaucoup, Élise Laudrenne, d'avoir témoigné sur ce gouel remis au goût du jour. Catherine Roig, il y a des produits qu'on connaît dans votre ouvrage, il y en a d'autres qu'on connaît pas, si on n'est pas breton, par exemple le carigos, qui vient de l'Orient d'ailleurs, qui est une sorte d'épice.
Qui est un mélange d'épices, en fait, qui ressemble quelque peu au curry indien, pour la bonne raison que quand Colbert a créé la ville de l'Orient, enfin, il n'a pas créé la ville, il a créé le comptoir des Indes à l'Orient en 1666, c'était pour aller notamment chercher des épices. Et le curry a été créé par un pharmacien qui s'appelait Monsieur Goss, d'où le nom Carigos, sur la recette d'un naufragé indien qu'il aurait recueilli. Et c'est une épice que l'on trouve toujours en pharmacie à l'Orient, enfin, un mélange d'épices, c'est très très bon avec le homard, les palourdes, etc. C'est absolument délicieux.
Et en dessert, un délice, le far breton, dont vous nous avez donné la recette, qu'on met en ligne évidemment sur la page des bonnes choses. Le voyage aurait pu continuer, mais voilà, il se poursuit dans la cuisine de la Bretagne. Food trip iodé en 100 recettes avec les photos d'Emmanuela Sino, publiées chez Hachette. Merci beaucoup à vous, Catherine Roig, d'avoir
fait
ce petit voyage en notre compagnie. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France. Avec Siam Boutata à la préparation, June Lopère à la réalisation et notre technicien du jour Alexandre Dang, nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.